Et on retrouve tout de suite, et si c'était ça le bonheur, avec Faustine Bollard, et on commence, comme tous les jours, par son billet d'humeur.
C'est tellement facile de se moquer des pépères à leurs chiens-chiens qui dépensent des fortunes en joujoux en plastique pour leurs bijoux d'amour. Tellement entendu de se moquer des mémères à leurs chachas qui ne peuvent pas faire 2 mètres sans craindre un traumatisme de leurs petits canaillous en sucre. Tellement évident de vous proposer un remake radio de confession intime que vous me permettrez en ce lundi, pourtant très ensoleillé, de vous livrer une pensée un peu plus sérieuse quant à notre sujet du jour. Souffrance, c'est le mot qui revient le plus dans la bouche de tous ceux autour de moi qui assistent impuissants au mal-être de leur animal domestique. Souffrance, mais aussi dévotion, attachement inconditionnel, sacrifice, fidélité. Il m'est impossible aujourd'hui d'aborder uniquement avec légèreté ces drames domestiques qui se jouent chez certains d'entre nous. Je pense à ceux qui nous écoutent, qui ont une bête malade et qui n'hésitent pas à bouleverser leur quotidien pour le remercier jusqu'au bout des joies qu'il vous a apportées. Je pense à ceux qui se voient condamnés à se séparer d'un chien parce que ses grognements font craindre le pire pour le bébé qui vient d'arriver. Je pense à ces jeunes femmes et ces jeunes hommes dont le chat fait ses besoins partout pour exprimer son traumatisme d'un déménagement ou sa douleur suite à un accident. Je pense enfin à ces vrais amoureux des animaux qui doivent un jour faire appel à un spécialiste pour les aider à affronter une cohabitation devenue insoutenable, comme un vrai constat d'échec, un cri de désespoir. J'ai vu dans leurs yeux à quel point ces difficultés ne pouvaient être moquées. J'ai eu l'occasion de sentir leur abattement d'avoir raté une éducation ou peut-être d'avoir aussi à trahir celui qu'ils ont tant aimé. Alors je ne suis pas moi-même une grande folle des animaux, vous le savez, mais pour une raison que je ne m'explique pas, pour la première fois dans cette émission, je n'ai pas envie de faire appel à la dérision, mais plutôt à la compassion. C'est pour ça que nous prenons très au sérieux les conseils que l'on va tenter de vous donner aujourd'hui. Mon animal a pris le pouvoir chez moi. Bienvenue dans « Et si c'était ça le bonheur ?», l'émission qui fait du bien, même à nos chiens.
Europe 1, « Et si c'était ça le bonheur ?», Faustine Bollard.
Bonjour à tous et à toutes. Bonjour Julia.
Bonjour Faustine.
Julia qui se moque de moi en me disant bah dis donc, ça commence bien lundi,
belle
lundi
humeur ce matin.
Belle humeur ce matin. C'est vrai que c'est le premier jour de la semaine, c'est un peu dur certainement pour tout le monde, mais pas d'inquiétude, nous sommes là pour vous épauler dès la rentrée, puis vous nous épauler également en fonction de nos humeurs. Dans quelques instants, vous retrouverez le répondeur des si c'était ça le bonheur, comme tous les jours. Et puis en fin d'émission, pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, vous allez retrouver une nouvelle rubrique, la recette du bonheur, tous les jours. Une personnalité vient nous donner sa recette pour être heureux. Aujourd'hui, c'est Jacques Weber qui a accepté de se prêter au jeu. Vous découvrirez ça tout à l'heure. Vous aurez également rendez-vous avec le site internet du jour, que vous retrouverez à 15h30. On va vous parler de speed dating pour chats, comme quoi on est prêt à tout, on va voir ça dans un instant. Alors, mon animal a pris le pouvoir chez moi, c'est donc le thème qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, si vous avez le sentiment que votre chien ou votre chat impose sa loi chez vous, que vous n'avez pas réussi à imposer vos règles en tant que maître ou maîtresse, et que cette adoption est un échec, si vous avez décidé de reprendre les rênes de la situation, et que vous avez fait appel à un spécialiste, si au contraire, vous êtes en train de baisser les bras, et que vous envisagez à regret de vous séparer de l'animal, vous pouvez nous contacter au 39 21, que vous soyez optimiste ou pessimiste. C'est le nouveau numéro de téléphone d'Europe 1, 34 centimes la minute. Vous pouvez également, et c'est une nouveauté, nous envoyer des SMS. Pour cela, il vous suffit de nous envoyer le mot-clé « bonheur » espace suivi de votre message au 7 21 21, 50 centimes plus le coût d'un SMS. Voilà, c'est parti, bienvenue chez vous. Mon animal a pris le pouvoir chez moi, c'est donc la question du jour. Sandrine Hotzmann est notre invitée aujourd'hui. Bonjour Sandrine.
Bonjour.
Bienvenue parmi nous, merci d'avoir accepté notre invitation sur Europe 1. Vous êtes éducatrice canin et comportementaliste pour chiens et pour chats. Vous êtes créatrice du site www.chien-chat-mode-d'emploi.com. Alors pour quelle raison, Sandrine, un animal domestique peut-il devenir trop envahissant? Déjà, de quelle manière également il peut devenir trop envahissant?
Chaque situation est différente et puis dans chaque famille, hein, vous avez des comportements gênants donc qui peuvent gêner certaines familles et puis d'autres finalement pas plus que ça. On a des problèmes qui peuvent être d'ordre par exemple la malpropreté ou de la destruction, ce qu'on retrouve assez souvent par exemple à Paris, hein, dans les appartements, des chiens qui sont enfermés toute la journée de 7h le matin jusqu'à 19h le soir, sans sortie du tout. Donc on peut imaginer facilement quels dégâts on peut retrouver, des causes d'agressivité également sur une personne de la famille, des chiens agressifs entre eux aussi, ou qui n'ont pas ce qu'on appelle le rappel, c'est-à-dire qu'on ne peut pas détacher à l'extérieur parce que sinon ils fuguent ou ils ne reviennent pas du tout. Mmh. Voilà, il y a de multiples raisons.
Est-ce que l'animal cherche forcément à faire payer quelque chose à son maître ?
Non, il n'a pas... Non, du tout. Il n'y a absolument pas ce genre, malgré tout le respect que j'ai pour l'animal, il n'y a pas cette forme d'intelligence. C'est-à-dire qu'un animal, ce qu'on retrouve assez souvent dans les familles, quand on dit « Oh, il a détruit ça, il l'a fait exprès », eh bien non, l'animal n'a pas cette intelligence-là. Il ne fait pas cette destruction pour vous embêter. Il est simplement tombé sur le canapé et donc l'a détruit parce qu'à un moment, il était mal, en détresse, mais aucunement pour vous ennuyer.
Alors justement, pour quelle raison un chat ou un chien peut se retrouver en détresse ? Comment un chien peut se retrouver traumatisé ? Je parlais tout à l'heure de déménagements qui peuvent un petit peu le déstabiliser. Quelles sont les autres potentielles raisons ?
La solitude, hein, un chien qui effectivement n'a pas appris à rester tout seul, ce qui est très fréquent. Par exemple, on va chercher un chiot pendant les vacances, ce chiot de 8 semaines, on l'a avec nous toute la journée, on s'en occupe, et puis arrive le lundi matin, on repart au travail, et là l'animal est laissé toute la journée dans la maison. Il est bien évident qu'en rentrant, on va retrouver des destructions, de la malpropreté, donc voilà.
Comment on peut repérer un animal qui est malheureux, comment s'en rendre compte ? Est-ce que physiquement, j'allais dire, il montre des plaies, quelque chose qui peut nous donner des signes ?
Oui, alors le stress peut effectivement déclencher, par exemple, ce qui est très souvent constaté par les vétérinaires, ce qu'on appelle des plaies de léchage. C'est-à-dire que le chien va se lécher une partie, souvent c'est la patte, et il va se lécher vraiment intensément. Hein, ça peut même prendre des proportions assez conséquentes. Donc ça, c'est souvent lié au stress, effectivement. Chez le chat, on a ce qu'on appelle une alopécie, c'est-à-dire que le chat qui s'arrache les poils. Et souvent, il y a une cause, bien évidemment, qui est liée avec le propriétaire. La solitude revient souvent.
Plus pour les chats que pour les chiens.
Non, on le retrouve autant chez l'un que chez l'autre. Mmh. Hein, donc, effectivement, c'est toujours lié, c'est en relation avec le propriétaire. Le relationnel entre l'animal et son propriétaire, c'est quelque chose d'extrêmement important. Tout est là, tout le travail est là.
Le mal-être chez un chat peut être plus violent que le mal-être chez un chien ou le contraire ?
Il y a l'agressivité également chez le chat, bien entendu. Souvent plutôt chez le chat par manque d'activité. Hein. Chez le chat également, il faut savoir que chez le chat, il n'y a absolument pas de rapport de dominance, hein, aucunement. Et on veut très souvent sur l'animal avoir une autorité, mais un pouvoir physique, quelque chose qu'on veut imposer sur l'animal. Ça, c'est ce qu'on retrouve aussi assez souvent. Mais pas plus chez le chat que chez le chien.
Si vous avez un, vous reconnaissez dans les cas que l'on évoque et que vous voulez témoigner, vous nous appelez au 3921. Quel est le rôle d'un comportementaliste ? À quel moment vous allez intervenir ?
Eh bien, c'est le propriétaire, hein, qui fait la démarche de nous appeler. Alors, le comportementaliste, effectivement, va aller travailler sur tous les problèmes rencontrés dans le relationnel. Disons que la différence, c'est que le comportementaliste, lui, son métier, si vous voulez, il ne conditionne pas, en tout cas, l'animal. Ça, c'est le travail de l'éducateur. Hein. Conditionner un animal, c'est-à-dire lui apprendre un assis, un coucher, un debout, là, c'est le métier de l'éducateur. C'est pour ça que moi, j'ai choisi de faire les deux, parce que pour moi, les deux sont complémentaires et indispensables. Le métier du comportementaliste, c'est vraiment d'aller travailler sur le relationnel entre le propriétaire et l'animal. Parce que, comme je le dis bien souvent, comment peut-on aller poser un conditionnement, une bonne obéissance, c'est-à-dire un bon rappel avec son chien, un chien qui tire pas sur la laisse, quand on n'a pas un bon relationnel à la base avec son animal ? C'est impossible.
Mmh. Quand vous arrivez dans une famille, comment vous faites un diagnostic ? Comment ça se passe concrètement ?
Alors, je me déplace à domicile parce que moi, j'aime bien voir l'animal dans son contexte de vie. envie. Donc là, c'est un choix personnel. Hein, mais donc je reste 2 heures de temps chez le propriétaire. Ça me permet de bien voir un petit peu ce qui se passe, de voir tous les membres de la famille, de voir le relationnel établi, de voir réellement aussi le profil du chien. Et puis dès la fin de ce premier entretien, le travail commence. Je vais vraiment laisser tout ce qu'il y a à mettre en place et de la façon, dans la direction dans laquelle on va travailler. Donc ça prend beaucoup de temps. Quand j'arrive, je ne sais pas encore exactement ce que je vais découvrir. Hein, souvent, le propriétaire vous donne des informations au téléphone et puis vous, quand vous arrivez, vous en découvrez beaucoup d'autres.
Quelles sont les petites choses justement anodines qui peuvent vous donner des informations dès que vous arrivez?
Mon travail commence...
Alors qu'on vous en avait pas parlé
oui,
avant.
Oui, alors moi, mon travail commence dès que je sonne à la porte. Voilà, donc le type d'aboiement que je vais entendre. Donc j'ai pas encore vu le chien, la porte est pas encore ouverte et je sais, mon travail commence à ce niveau-là. Donc il m'est par exemple arrivé il y a récemment, on m'a dit non, le chien n'est absolument pas agressif avec les visiteurs, il n'y a aucun problème, pas de souci, très bien. Donc je suis arrivée confiante et le chien a été libéré, c'était sur un palier, hein, un appartement a été libéré et le chien est venu avec moi me rejoindre dans l'ascenseur et s'est avéré qu'il était agressif.
Il était agressif.
Donc je l'ai fait effectivement isoler immédiatement et je peux vous dire qu'il était vraiment agressif. Donc voilà, donc les personnes qui n'ont... Alors, leur défense, c'est un chien qu'ils ont adopté, qu'ils n'avaient pas depuis longtemps. Mais voilà, la méconnaissance et la prise de risque que l'on peut...
C'est dur de faire accepter à des propriétaires qu'ils ont peut-être mal fait les choses, que leur animal est peut-être pas bien chez eux. Ça demande aussi un travail psychologique auprès des maîtres.
Alors moi je ne porte pas de jugement. Je crois qu'ils sont suffisamment aptes à la fin de l'entretien des 2 heures de s'en rendre compte par eux-mêmes. Hein, et de voir qu'effectivement ils sont partis sur de mauvaises bases, ils sont partis dans les mauvaises directions, ils se sont également peut-être fait mal conseiller, ils ont peut-être été visités ou des sites ou lu des choses qui n'étaient pas en tout cas adaptées à leur animal, et voilà, tout est mal parti. Donc moi je suis là pour rétablir les choses et rétablir un bon relationnel.
Alors on a Dom qui nous écrit une toute petite astuce. Elle nous dit: gros souci voilà quelques années avec une chatte qui urinait sur les affaires du bébé. Solution: couper quelques morceaux de couche avec l'urine du bébé et la déposer dans la litière du chat. Miraculeux, tout le monde revit avec bonheur. C'est des petits conseils que vous pouvez donner ou là on essaie de masquer un peu le problème?
Non, c'est finalement une bonne idée. C'est pas mal. Il y a quelque chose de nouveau qui est arrivé dans la famille et qui donc a déstabilisé le chat. Le chat, contrairement à ce que l'on pense, c'est un animal extrêmement sensible. Donc effectivement, le fait du coup d'aller mettre cette nouvelle odeur de ce nouvel arrivant dans la litière a pu du coup apaiser le chat. Donc très bonne idée.
On va s'arrêter juste un moment, le temps d'écouter le témoignage de nos auditeurs. Vous savez qu'il y a le répondeur aujourd'hui qui a été remis en place pour cette nouvelle année. On vous pose régulièrement des questions en fin d'émission concernant le thème de l'émission du lendemain et vous nous répondez. Alors il dit vendredi, puisqu'on était le week-end hier, vendredi, on vous a demandé si parfois vous aviez le sentiment d'habiter chez votre chien. Et voilà ce que vous nous avez répondu au 39-21.
Bonjour Faustine. C'est pas vraiment que j'ai l'impression de vivre chez mon chien, mais c'est vrai que nous avons déjà eu plusieurs chiens, nous en sommes à notre 3e. Et là, je suis tombée des nues, c'est mon mari qui est complètement fou de son chien. Enfin, qui est quand même le chien des enfants au départ. Ce brave chien qui est adorable, nous l'aimons tous, mène mon mari par le bout du nez, au point que des fois, quand je vais rejoindre mon époux un peu plus tard que prévu dans le lit, je les trouve tendrement enlacés. J'ai confiance en mon mari, en mon chien aussi, mais c'est vrai que ça m'a bien fait rire d'entendre votre énoncé. Voilà, merci, au revoir.
Bonjour Faustine, moi j'ai l'impression de vivre chez mon chien, en quelque sorte, puisque ma femme, je me suis installée chez ma femme, et malheureusement avant moi, il y avait son chien, Maxou. Donc c'est un peu la confrontation entre Maxou et moi à la maison, puisque avant de vivre avec elle, le chien en fait, il lui arrivait de dormir sur le lit. Donc c'est quelque chose que je ne veux pas, c'est une bataille de tous les jours entre Maxou, moi et ma femme. Donc voilà, en quelque sorte j'ai l'impression de vivre chez ma femme et son chien, mais je fais ce que je peux et j'essaie de me battre. Merci, à bientôt.
Bonjour Faustine, j'appelle parce que j'ai des parents qui ont 2 chiens et des fois on a vraiment l'impression de vivre chez eux, c'est limite les chiens passent avant moi, c'est vraiment je donne tout à mon chien, je le laisse faire, je ne lui dis rien, donc j'ai vraiment, vraiment l'impression de vivre chez mon chien et non chez mes parents.
Est-ce que moi j'ai beaucoup aimé les commentaires des couples surtout, j'ai l'impression de vivre chez ma femme et mon chien Maxou, nous disait cet auditeur. Cette première auditrice également qui voyait son chien dormir avec son mari, même si elle avait confiance dans les deux, ça l'exaspérait un petit peu. Est-ce que ça peut poser, là on en parle avec humour, mais est-ce que ça peut poser vraiment des problèmes même dans un couple? Est-ce que ça peut avoir des conséquences dramatiques sur le relationnel, puisque vous utilisez beaucoup cette expression-là, entre les membres de la famille?
Oui, bien sûr, mais bon, là, ce que l'on voit en écoutant les messages, en tout cas, c'est qu'il faudrait peut-être que les gens discutent entre eux. L'animal, finalement, lui, c'est pas lui le problème. C'est-à-dire que là, il y a une discussion qui doit être mise en place entre la personne. Là, par exemple, on voit que le jeune homme qui donc arrive chez sa petite amie où le chien est déjà présent. Là, peut-être qu'il faut qu'ils discutent ensemble, effectivement, de la place que l'on doit donner à l'animal, puisqu'il y a un couple qui se crée. Mais avant, cette femme était seule avec son chien, donc finalement, ça gênait personne que le chien dorme avec elle. Ok, il y a un conjoint qui arrive, donc c'est à elle de repositionner le chien à sa place de chien et voilà, parce que en attendant Maxou il a quand même comblé un vide en l'absence de ce
partenaire.
Conjoint, voilà, tout à fait. Donc on voit bien que là c'est pas l'animal qui finalement a pris une place, c'est celle qu'on lui a donnée, et puis à un moment donné on n'a plus envie de la partager. Alors effectivement Maxou il se dit attends, moi j'ai toujours dormi là, c'est pas, voilà, donc je crois qu'il faut déjà en discuter, que le couple en discute, que les choses soient très claires. Moi ce que je conseille souvent quand un chiot arrive par exemple, c'est que je demande au couple, d'où l'importance que les deux soient présents à l'entretien, je demande au couple si finalement le canapé c'est oui ou c'est non. Et si le couple, un des deux me dit oh oui moi j'aimerais bien, et puis l'autre non finalement, alors on va se mettre d'accord. Je vais leur laisser le temps d'en discuter, et la prochaine fois que l'on se verra, on en rediscutera à nouveau pour que les choses soient claires pour le chien.
On va s'arrêter juste une seconde et on va se retrouver avec vous tous. Vous avez visiblement très envie de témoigner et de poser vos questions à Sandrine. Alors si vous avez le sentiment aussi d'habiter chez votre chien ou votre chat, vous nous appelez. Comment exprime-t-il son mal-être? Quelles conséquences cela a-t-il sur votre vie de couple et de famille? Si vous avez réussi à vous en sortir grâce notamment à l'intervention d'un spécialiste, vous n'hésitez pas à nous contacter au 3921, Julia.
C'est bien ça. Et vous pouvez également nous envoyer des SMS. Pour ce faire, il suffit de nous envoyer le mot-clé c'est bonheur, espace, suivi de votre message au 72121. Puis tous ceux qui préfèrent les mails, c'est europe1.fr.
A tout de suite.
Europe 1,
le grand direct des médias.
Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.
Du lundi au vendredi, 11h-12h30,
sur Europe 1.
Le soir, je rentre. Je mets la clé dans la porte. Je me fais déjà chier.
Après son triomphe au Palace, Valérie Lemercier revient à l'Olympia.
Cinéma, hein ?
Valérie Lemercier à l'Olympia à partir du 23 septembre.
Un spectacle Europe 1.
Europe 1. Et si c'était ça le bonheur ? Faustine Bollard.
Mon animal a pris le pouvoir chez moi, c'est la question qui nous intéresse aujourd'hui en ce lundi. Sandrine Hotzmann est notre invitée, elle est éducatrice canin et comportementaliste pour chiens ou pour chats. Elle est créatrice du site www.chien-chat-mode-d'emploi.com. Une question de Lyon, de Thérèse, une question qui nous vient de Lyon même.
Qui nous vient de la ville
mais
de Lyon.
Mais voilà, qui est une question lyonnaise. On se moque de moi en régie. Ça va, c'est lundi pour tout le monde les amis, laissez-moi me remettre dans le bain. Donc Thérèse qui nous dit, est-ce qu'un animal souffre d'alterner entre deux domiciles et deux maîtres, est-ce qu'il peut souffrir d'ordres contradictoires?
Alors, chez le chien, il y a quand même quelque chose qui est vraiment formidable. Il y a une capacité d'adaptation, en tout cas, qui est vraiment très très importante. Donc, finalement, si le chien passe d'une famille à une autre, que les règles sont un petit peu différentes, mais pas tant que ça, effectivement, l'animal réussira très très bien à s'adapter. Pas de souci.
Pas de souci. Merci Thérèse. Aurélien, qui de Paris 19e, nous écrit « J'ai récupéré un chaton très mal en point. Je l'ai soigné et gardé. Depuis, il se comporte comme un chien. Il nous suit, il comprend tout. Est-ce qu'un chat peut avoir un rapport équivalent à celui d'un chien ?
Absolument. Oui, oui, tout à fait. Alors, surtout chez le chat, on fait toujours un sevrage qui est beaucoup trop précoce. Il faut savoir que le chat, normalement, reste avec sa maman jusqu'à l'âge de 4-5 mois. Nous, on les sépare beaucoup plus tôt que ça. Alors, donc, pour les chats de race, maintenant, les éleveurs, c'est le départ est l'âge est de 3 mois, donc c'est mieux. Mais souvent, chez les particuliers, malheureusement, le chaton part à 8 semaines, ce qui est beaucoup trop trop tôt. Donc effectivement, il y a un attachement qui est très important ensuite à la personne qui l'aura soigné et qui s'en sera occupée.
Merci pour Aurélio. Et Magali nous écrit « J'ai un chien d'un an, il a mordu mon fils. On a fait intervenir un comportementaliste qui disait que cela ne venait pas du chien mais de notre comportement. On le prenait comme le gros nounours de la maison. Il fallait apprendre aux enfants comment se comporter avec lui. Que pensez-vous de l'analyse qu'a faite donc cette comportementaliste ?»
Difficile, hein, sans avoir vu et le chien et la famille. Grande prudence avec les enfants, très grande prudence. Il n'y a pas de race qui a le gène d'aimer les enfants. Quand je lis dans les bouquins, le Labrador aime les enfants. Non, c'est il n'y a pas une race qui aime les enfants. Hein, c'est faux. Hein, c'est ce chien-là, ce profil-là. Ça n'a rien à voir avec une race. Donc grande prudence toujours avec les enfants. Il faut jamais oublier que quand même on partage notre vie avec une espèce différente, un animal différent et un prédateur.
On va prendre tout de suite Catherine. Bonjour Catherine.
Bonjour.
Bienvenue parmi nous Catherine.
Merci.
Vous habitez dans la Haute-Saône.
Oui.
Vous êtes handicapée vous-même. On vous a offert un chihuahua.
Voilà, oui.
Alors
il a 7 mois maintenant. C'était des personnes âgées qui l'avaient et qui voulaient s'en séparer parce qu'ils ne pouvaient pas le sortir.
Oui.
Et mon infirmière me l'a proposé parce que je devais me mettre à la campagne pour être tranquille, pour être de plein pied.
D'accord.
Donc j'ai pris Pépito, qui est adorable.
Mmh. Hein, sûrement.
Qui est génial. Ah oui, non, il est très marrant. Il a beaucoup de jouets, il a tout ce qu'il veut. Bon, quand il est arrivé à la maison, on avait déjà un chat. Donc le chat avait 5 ans. Elle l'a mis tout de suite au parfum en lui faisant comprendre que c'était elle la chef. Donc pas de problème, il n'y a pas de souci avec le chat. Il va même faire pipi et caca le soir alors qu'il a un jardin. Il va faire pipi et caca dans la caisse du chat. Donc ça, c'est marrant. Mais il y a une chose particulière, avec mon compagnon ça se passe très bien, mais moi quand je rentre de chimiothérapie, il est agressif. Enfin pas agressif, mais il va me mordiller, il va me lécher le crâne puisque j'ai plus de cheveux, il va me mordiller les oreilles, me mordiller les mains, me renifler le pansement, enfin il est... J'ai le sentiment qu'il est pas comme d'habitude, quoi. C'est pas...
Il sent quelque chose.
J'ai l'impression que... Oui, j'ai l'impression qu'il sent l'hôpital. Enfin, l'hôpital, oui.
Et que ça le stresse.
Ça le stresse complètement, oui. Il est très très énervé. Très très énervé.
C'est possible, ça, en effet, que cette année, que Pépito, ce chihuahua de Catherine, sente en tout cas que quand, enfin, ça, on va dire que ça symbolise quelque chose d'assez négatif quand Catherine revient et qu'elle sent l'hôpital.
En tout cas,
on peut expliquer les choses comme ça.
Elle porte des odeurs qui sont différentes et inquiétantes. Il est inquiétant tout simplement pour le chien. À l'étranger, vous avez comment des chiens qui, par exemple, peuvent détecter des crises d'épilepsie, peuvent également détecter des cancers de la prostate. Il y a des on commence à s'intéresser à ça. Le chien, apparemment, pourrait nous apporter son aide. Donc, vous voyez, je crois qu'on est dans un monde totalement inconnu à ce niveau-là. Donc, il est possible qu'effectivement, Pépito soit très inquiet des odeurs ramenées et de l'odeur différente. Quand elle est partie, elle avait quelque chose de autrement, donc à son retour, il y a quelque chose d'inquiétant.
Qu'est-ce qu'elle pourrait faire, Catherine, pour rassurer son chien dans ces moments-là et éviter qu'un jour il devienne peut-être un peu trop agressif ?
Elle ne décrit pas vraiment tous les comportements, donc je pense qu'il faudrait déjà aller voir quel comportement réellement Pépito a à son retour, parce que elle parle de mordillement, donc peut-être qu'elle pose une mauvaise traduction à ce comportement-là. Elle n'a pas parlé vraiment d'agressivité, donc il faudrait aller voir là. Difficile de répondre comme ça, il manque des éléments.
Merci Catherine, on va prendre Muriel. Bonjour Muriel.
Oui, allô ?
Oui, bonjour Muriel, bienvenue parmi nous.
Bonjour Faustine, je vous écoute tous les jours.
Ah, ça me fait plaisir Muriel, moi aussi, je suis contente de vous entendre.
Moi je voulais vous dire que j'ai trois chats à la maison.
Oui.
Deux mâles, des petits persans. Et une chatte européenne, comment vous dire, tigrée,
oui.
Qui s'appelle Darina.
Davina.
Darina.
Darina, j'ai eu peur.
Ah non, c'est pas pour rien Darina d'ailleurs, puisque je lui chante sa chanson tous les jours.
D'accord, ok.
C'est une chanson de Sylvie Vartan quand elle a adopté sa petite fille bulgare.
Ah, c'est vrai, vous pouvez nous la chanter la chanson ?
Ah oui. Darina, je sais comment dire je t'aime. Mais jamais je ne l'ai dit autant. Darina, si tout ce qui à toi m'enchaîne est tellement différent Maintenant...
Sylvie Vartan n'a plus qu'à bien se tenir.
Ah oui, là.
Non, mais non, en plus je fume, j'ai la voix enrouée.
Alors, Darina, qu'est-ce qui se passe avec Darina?
Je l'ai adoptée malheureusement, on m'avait fait croire qu'elle avait 2 mois, et elle n'avait que 6 semaines. Alors, je l'amène chez mon vétérinaire à l'époque que je consultais pour mes autres chats, qui, pour la faire vacciner, bien sûr, j'ai eu chez des particuliers. Hein.
Oui.
Et puis, c'est moi-même qui dis à ma vétérinaire, vous ne trouvez pas qu'elle est un petit peu maigrichonne quand même pour la vacciner à 2 mois. Et ma vétérinaire me répond, oh, vous croyez? Bon, moi je dis que j'en suis sûre. Bon, je lui dis, écoutez docteur, arrêtez vos piqûres, je reviens dans 15 jours. Entre-temps, ces gens-là qui me l'avaient confié, me l'avaient donné, rentrent de vacances. J'apprends que Darina n'avait que 6 semaines quand, donc je l'ai prise.
Mmh.
Et puis maintenant, alors Darina, je ne sais pas, je pense que c'est peut-être aussi parce que, à cause de Sylvie Vartan et Darina, je les chouchoutais plus que les autres. Mais il faut dire aussi que, vous savez, des chats persans, ce sont des chats qui ne demandent rien.
Alors, qu'est-ce qu'elle fait, Darina?
Alors, Darina, eh bien, je ne peux plus recevoir d'amis chez moi. Je ne peux plus recevoir qui que ce soit.
Mais qu'est-ce qu'elle fait?
Eh bien, elle feule. Et puis, mes amis ne peuvent plus aller dans les toilettes, ni rien, parce que je l'enferme. J'ai été une certaine période à ne plus recevoir beaucoup de monde à la maison. Et maintenant que je reçois à nouveau quelques amis, Darina est très méchante, elle sort ses griffes et même moi je ne peux pas aller aux toilettes, je l'enferme dans la salle de bain et tout, mais on ne peut plus.
Là on est vraiment dans le cas précis où vous êtes plus...
J'ai acheté un produit que je ne citerai pas, mais bon, peu importe.
Qui sert à rien.
C'est cher. Et peu importe, rien ne fait, Darina ne supporte pas que quelqu'un vienne à la maison. Même pas un plombier.
Vous en souffrez vous-même, hein, Muriel?
Oui, beaucoup.
Bah oui.
Parce que maintenant que je vais mieux, je voudrais recevoir à nouveau des gens. Mais du coup, être obligée d'enfermer cette petite Darina en dehors et tout, ça la rend encore plus méchante.
Oui, ça vous fait... Bah bien sûr. Et puis vous, ça vous fait mal au cœur aussi, donc vous préférez vous passer de visite.
Attendez, je suis laxiste, parce que mes vétérinaires me disent, prenez de l'eau, la pchup-pchut... Un petit pchup-pchut comme on fait pour les plantes, vous savez.
Mmh.
Je le fais, mais aussitôt, je prends Darina dans mes bras, et puis elle dort dans mes bras, elle dort avec moi, mais elle est pire qu'un bébé.
Mmh. Alors, une réaction d'abord au témoignage de Muriel, Sandrine, qu'on entend depuis tout à l'heure, qui est très 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 amoureuse de sa Darinette, hein.
Oui, alors déjà la première chose, c'est d'aller faire un bilan complet chez le vétérinaire. Quand il y a une cause d'agressivité ou de malpropreté, surtout chez le chat, c'est...
Pourquoi surtout chez le chat?
Chez le chat, par exemple, pour les causes de malpropreté, bien souvent, on peut avoir tout simplement une cystite. Hein, donc, pas la peine d'aller voir le comportementaliste.
D'accord,
là, c'est
okay.
Le vétérinaire qui
faut
doit,
déjà
qui
faire
doit traiter.
Un point
tout
de
à
santé,
fait.
D'accord.
Donc, toujours, hein, ça c'est, je dirais que moi, en tout cas, c'est comme ça que je travaille. Je n'interviens pas tant que j'ai pas le bilan complet du vétérinaire qui me
d'accord.
dit que tout va bien. Donc là, c'est la première chose, parce qu'une cause d'agressivité également, il peut y avoir une raison médicale hein, là, mmh. là-dessus. Peut-être que ce qu'on pourrait voir, est-ce que Darina sort? Est-ce qu'elle est en appartement? Est-ce que c'est un chat qui effectivement ne sort pas du tout et est enfermé toute la journée? Parce qu'on pourrait très facilement aussi penser à un manque d'activité. Le chat, contrairement à ce que l'on pense, surtout un chat européen, c'est un chat qui a besoin d'activité. Moi, ce que j'appelle l'activité mentale, hein, c'est pas simplement que l'activité physique, c'est vraiment l'activité mentale. Donc sortir dehors, faire simuler une séquence de chasse, regarder ce qui se passe autour de soi, etc. Tout ça, c'est de l'activité. Et peut-être que simplement le problème de Darina vient de là. Peut-être que si elle est en appartement et qu'elle n'a pas beaucoup de dépenses et d'activité, eh bien elle retourne cette agressivité contre les visiteurs.
C'est peut-être une piste de réflexion pour vous, Muriel. Merci en tout cas pour votre appel. On a beaucoup d'appels, hein, donc on va essayer d'en prendre un maximum. Sonia nous écrit « Mon chat habite sur nous, il dort sur nos genoux ou ceux de nos invités. Heureusement qu'il n'a pas accès aux chambres. Nous pouvons le poser 20 fois par terre, sur le canapé ou ailleurs. Il remonte toujours sur nos genoux. C'est une glu. » Ça peut être révélateur d'un problème ou est-ce que c'est juste un trait de caractère qui fait que ce chat est très câlin?
Oui, puis il y a une notion de territoire. Les genoux, tout à coup, est devenu le territoire du chat. Donc, rien de grave, là.
Rien d'alarmant. On écoute un peu de musique. On se retrouve dans un instant avec aussi le site internet du jour. Et si nos animaux étaient comme nous et manquaient d'amour, tout simplement, eh bien, nous avons peut-être la solution, le pet dating. On vous explique comment ça marche dans un instant. Et vous pouvez continuer à nous appeler au 3921.
C'est bien ça, standard Europe 1. Les SMS, c'est le mot-clé bonheur, suivi d'espace et de votre message, évidemment, 72121. Puis les courriels, c'est europe1.fr.
C'est un plaisir de réécouter Phil Collins sur Europe 1 avec un tube de 1982, You Can't Hurry Love.
Europe 1, et si c'était ça le bonheur, Faustine Bollard.
Mon animal a pris le pouvoir chez moi, c'est la question qui nous intéresse aujourd'hui, le thème de notre émission. Sandrine Hotzmann est notre invitée, elle est éducatrice canin et comportementaliste pour chiens et pour chats. Elle est créatrice du site www.chienchatmodeemploi.com. Valérie nous écrit « J'ai un ami dont le chien peut détecter ses crises d'épilepsie et le prévient de sorte qu'il puisse se mettre en sécurité. Il reste à côté de lui pendant la crise et est capable d'aller chercher du secours si besoin est. » Vous en aviez parlé justement, Sandrine, de ces cas-là. Henrietta nous écrit « Je voudrais devenir éducateur canin et comportementaliste. Comment trouver une formation ? J'ai 45 ans. » C'est quoi là, juste parce qu'on répond à toutes les questions de nos auditeurs. Que faut-il faire comme étude ou de formation pour devenir comportementaliste pour chien ?
Un brevet d'État qui est reconnu, le BEPA, pour être éducateur canin. Pour être comportementaliste, il n'y a pas encore de diplôme reconnu. Il y a des écoles. Donc là, il faut faire un petit peu aussi le tri, parce qu'il évidemment, comme dans tout secteur, il y a de tout. Donc, il faut bien regarder sa formation. Je crois qu'il faut être réaliste aussi, il faut beaucoup de terrain. La théorie, c'est bien, mais il faut du terrain. Parce que quand on est face à un chien agressif, il faut quand même savoir quoi faire. Il faut savoir également bien guider ses clients. Donc, la théorie, c'est bien, mais le terrain est indispensable.
Est-ce que vous trouvez que les propriétaires qui s'engagent auprès d'un animal le font parfois peut-être de façon un peu trop inconsciente, sans connaître suffisamment bien leur bête ?
Absolument, on vit avec une espèce différente de la nôtre et on ne fait pas l'effort d'apprendre son langage. On attend que le chien s'adapte finalement à nos vies, à nos souhaits, mais en aucun cas on s'intéresse à lui, comment il fonctionne, sa communication, comment ça se passe, etc. Donc beaucoup de propriétaires ont des achats vraiment impulsifs, c'est-à-dire que
on veut un chien, là, maintenant, voilà.
Tout à fait, et puis ensuite le lundi matin, quand le week-end est terminé, je dirais qu'entre guillemets la galère commence. On se prend conscience des réels problèmes. C'est pas rien l'éducation d'un chien. Un chiot, c'est fatigant, c'est beaucoup de travail, ça demande beaucoup d'engagement. Il y a un contrat moral quand on prend la responsabilité d'une vie, que ça soit un animal et n'importe lequel, il y a un contrat. Alors à nous de nous faire guider au mieux et ce, dès le départ, par un professionnel.
Virginie nous écrit sur europe1.fr « J'ai un chat de 2 ans que j'ai adopté lorsqu'il avait 2 mois. J'ai essayé de bien l'éduquer, mais dans ces moments de folie, il me mord les pieds quand je passe près de lui ou alors il m'attaque sans raison. Il ne le fait qu'avec moi et pas à mon ami. Faut-il que je m'inquiète ou est-ce que c'est juste un jeu pour lui ?»
Là, voilà. Là, on est typiquement dans la situation du chat qui aurait besoin de sortir, qui manque d'activité, qui manque de stimulation à l'intérieur de chez lui et qui, du coup, quand il voit une cheville passer, eh bien, la prend tout simplement pour une proie.
Il y en a beaucoup, des chats qui font ça.
Oui. Et alors, au début, le chaton, ça nous fait sourire, c'est mignon, c'est rigolo, il joue. Et puis, quelques mois plus tard, eh bien, ça prend des proportions beaucoup plus graves. Alors là, qu'elle se fasse conseiller et aider immédiatement par un comportementaliste de chat, tout de suite. Là, il faut pas attendre.
Europe 1, et si c'était ça le bonheur ?
Et si c'était ça le bonheur ?
Le site internet du jour.
On passe donc au site internet du jour. Le site s'appelle pets-dating.com. Mathieu Ménessier est en direct avec nous. Bonjour Mathieu.
Bonjour, merci de m'inviter.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le créateur de petsdating.com, donc un site de rencontre pour les animaux. C'est sérieux Mathieu ?
Exactement, c'est très sérieux. En fait, c'est parti d'une réalité, en fait. C'est que moi, j'avais des animaux, des chiens, des fox terriers, et j'avais du mal à trouver à côté de chez moi d'autres propriétaires qui avaient donc un mâle ou des femelles pour pouvoir les faire reproduire à la base. Mm-hmm. Donc, cette idée est vraiment partie d'un besoin réel. Je me suis dit, c'est vrai que ça n'existe pas ce genre de site. On est toujours obligé de passer par le vétérinaire ou par des petites annonces et parfois les annonces sur les sites gratuits sont vraiment plus que douteuses. Je me suis dit, on pourrait essayer de proposer un service qui mettrait en relation les différents propriétaires animaliers. Donc il n'y a pas que les chiens, il y a également les furets, les rongeurs, les lapins, les chevaux, les chats. Donc tous ces propriétaires-là qui souhaitent faire reproduire leurs animaux, s'inscrivent sur le site ou viennent directement consulter les offres qui sont présentes.
Mais alors c'est quoi ? C'est comme un profil Facebook, c'est-à-dire il y a une photo de l'animal, on le décrit, ouais, c'est vraiment ça ?
Exactement. Alors en fait, à la base, c'était beaucoup plus simple. On a lancé une nouvelle version il y a un mois, qui est beaucoup plus aboutie que ce qu'il y avait avant. À la base, c'était vraiment, donc, comme je vous l'ai dit, un site de rencontre. Donc je suis tel animal, je recherche tel animal dans telle ville.
D'accord.
Vraiment basé comme si c'était un site de rencontre, comme on en connaît plein pour nous les hommes. Donc à la base c'était vraiment ça, donc il y avait juste un petit profil pour l'animal.
Oui.
Et aujourd'hui en fait tous les membres, on avait 10 000 membres là jusqu'à ce qu'on change de site, les membres nous ont demandé, eux, ça serait bien qu'on puisse avoir plus de services, qu'on puisse se faire des amis à travers le site, etc. Donc à travers les conseils de nos membres, on a décidé de développer quelque chose de plus gros, donc avec tout un système de réseau social, donc un véritable Facebook maintenant pour les propriétaires. Donc les propriétaires se font leur fiche et font la fiche de leurs animaux.
C'est pas justement juste des propriétaires qui veulent se rencontrer et qui se draguent aussi à travers ce biais-là ?
Bah alors, on a vraiment deux profils différents de membres sur Pet Dating. Donc il y a ceux qui viennent vraiment pour leurs animaux, uniquement pour ça. C'est-à-dire qu'ils viennent parce qu'ils cherchent un animal, que ce soit pour une saillie, mais également pour des rencontres, des balades. Puisqu'aujourd'hui, les propriétaires peuvent créer des itinéraires de balades. Comme si vous voulez, un groupe Facebook, ils vont créer une balade et les gens vont se retrouver un jour précis, une heure précise, et ils vont donc pouvoir se rencontrer entre eux. Mais donc, on a vraiment deux profils. Les gens qui viennent pour faire reproduire leurs animaux ou pour tout simplement se faire des amis, élargir leur relation. Et ceux qui viennent, bien évidemment, qui se disent, bah tiens, grâce à mon animal, peut-être que je vais pouvoir rencontrer quelqu'un côté de chez moi, etc., etc.
Alors, quels sont les autres services que vous proposez ? J'ai vu qu'il y avait aussi un cimetière virtuel.
Alors, ouais, effectivement, on a un cimetière virtuel. Ça, pareil, c'est une membre qui nous a dit, moi, mon petit chien est mort. J'aimerais bien pouvoir garder un souvenir de lui sur le net, etc. Donc on a fait un cimetière virtuel, c'est-à-dire que les gens, une fois qu'ils ont perdu leur chien, leur chat, leurs chevaux, leur furet, vont créer une tombe. Les gens vont pouvoir déposer des condoléances, offrir des fleurs, disons mettre des photos, des vidéos sur l'animal décédé.
Je vois que Sandrine est un peu affolée par cette idée de cimetière virtuel. Vous en pensez quoi ?
Non, c'est plus sur la partie, je dirais, reproduction. Je crois que là, il peut y avoir des dérives vraiment graves et avec des conséquences. Je pensais tout simplement, par exemple, on sait que si on fait le croisement d'un Rottweiler avec un Amstaff, ça va nous donner un chien donc non-lof, ça veut dire sans pédigré. Et du coup, ce chien-là, cette portée-là, va se retrouver en première catégorie.
Attention justement à ça. Vous surveillez ou vous ne mettez encore en relation les gens ?
Les catégories de chiens qui sont interdits à la reproduction sont pas disponibles sur le
D'accord.
site. Et bien évidemment, donc nous on a un souci bien évidemment de surveiller tout ce qui est reproduction. Après, les propriétaires, s'ils veulent passer par des sites de petites annonces gratuites, où c'est encore plus, les dérives sont vraiment majeures, nous, on essaye vraiment de proposer une alternative. C'est-à-dire que, de toute manière, si on n'est pas là, les gens vont quand même trouver un moyen de faire reproduire leurs animaux. Nous, on essaye de leur faciliter la main, tout en essayant de... On valide toutes les annonces, on regarde tout ce qui se fait, bien évidemment, et voilà.
Merci beaucoup Mathieu Ménessier d'avoir été en ligne avec nous. Je rappelle donc le site internet dont vous venez de nous parler. L'adresse c'est le www.pets-dating.com. Merci Mathieu.
Merci à vous de m'avoir accueilli.
Merci beaucoup, au revoir, bon après-midi. Monique est en ligne avec nous. Bonjour Monique.
Bonjour.
Bonjour Monique, bienvenue
Bonjour.
Parmi nous.
Voilà, je suis ravie de vous entendre. Ça fait tout drôle d'ailleurs de vous entendre au téléphone.
Je suis ravie de vous avoir. Vous nous appelez du Pas-de-Calais, Monique.
Oui, c'est ça. À partir de demain, je ne pourrai plus vous écouter puisque je suis enseignante et que ma rentrée, c'est pour demain.
Ah zut, on parlera justement
des
enseignants demain.
Oui, j'écouterai quand même.
Vous réécouterez sur europe1.fr le soir,
oui,
quand
voilà,
vous rentrerez à la maison.
Oui.
Voilà, exactement. Alors vous, c'est une histoire qui finit bien grâce à un comportementaliste, justement.
Exactement. C'est pour ça que je ne serai jamais trop reconnaissante envers Europe 1, parce que c'est grâce à une émission d'Europe 1 d'une petite dizaine d'années que j'ai fait appel à une comportementaliste.
Oui.
Parce que suite à du décès de mon mari, on m'avait offert une petite chienne cocker. Et je pense que par solitude et par besoin d'affection, je l'ai mal élevée, c'est-à-dire qu'elle était en fait la prunelle de mes yeux. Et elle vivait sur mes genoux, sur le canapé, elle dormait avec moi. Alors tout était parfait, sauf que petit à petit, elle devenait bien sûr la chef de meute, comme m'avait expliqué la comportementaliste, et que mes enfants ne pouvaient plus s'approcher de moi à plus d'un mètre. Elle montrait les crocs et chacun a eu droit à son petit coup de dent.
Oui.
Alors suite à cette émission, j'ai téléphoné à la comportementaliste qui m'a reçue, qui m'a laissé parler. Alors, je lui expliquais comment je faisais, et très fière de moi, je lui disais, vous savez, elle mange avant moi, elle dort près de mon lit. Ben, au bout de 5 minutes, elle m'a dit, ben, écoutez, c'est exactement ce qu'il fallait pas faire. Alors, ça a été dur quand même, un peu pour moi, parce qu'il a fallu que je change mes habitudes.
Vous avez été vexée.
Pardon ?
Vous avez été vexée.
Oui, surtout en tant qu'enseignante. Parce que je me suis dit, mince, c'est bien fait pour toi. On a toujours tendance à vouloir donner des conseils aux autres. Et là, j'ai pris une claque. J'ai dit, bon, il n'est jamais trop tard pour bien faire et pour apprendre les bonnes choses. Et c'est vrai qu'en suivant les conseils de cette comportementaliste, en changeant mes habitudes, vraiment tout a changé. Et l'année qui a suivi, ma fille a dû me confier son cocker aussi parce qu'elle vivait en appartement. On a fait une partie des séances donc avec l'aîné Noisette seule, et avec la deuxième donc qui suivait, et tout s'est admirablement bien passé. Maintenant, j'ai un gros nounours de 12 ans qui est là et que j'aime toujours autant, mais qui ne fait plus de mal à personne.
Voilà une histoire comme vous aimeriez en entendre plus souvent, hein, l'histoire de Monique Cor. Merci beaucoup pour son témoignage. Je vous embrasse, Monique. Ça fait partie des exemples que vous aimeriez voir exposer plus souvent.
Hein. Ça, c'est la plus grande récompense, hein, pour le professionnel. Et bravo à Monique pour cette remise en question, cette capacité justement à... Parce que c'est aussi une preuve d'amour finalement pour son animal, de dire ok, j'ai peut-être fait des erreurs, allez, on repart sur de bonnes bases, et voilà, c'est une histoire qui finit bien, bravo.
Dans un instant, on aura Patrick qui va nous parler de ses deux chats. Juste une question, hein, avant de nous arrêter. Audrey nous écrit, j'ai un problème avec ma chienne qui a 5 ans et que j'ai eu à l'âge de 10 semaines. Lors de mes absences, ma chienne, outre le fait de se lécher les pattes, gratte le crépi de la maison. De ce fait, je suis obligée de l'attacher. Que faire? En dépit de ce trop grand attachement à moi, elle n'obéit pas au rappel, comme votre interlocutrice en parlait précédemment. Est-ce que le fait de prendre un second chien pourrait arranger les choses? Ou est-ce que ça peut être pire?
Non, là, c'est le problème, elle est liée à elle. C'est son départ qui crée de l'anxiété chez le chien. Donc, mettre un autre chien ne réglera absolument pas le problème. Là, il faut qu'elle fasse appel à un professionnel pour se faire aider, pour que ce chien arrive à rester seul.
Merci Audrey pour votre question. On s'arrête et on se retrouve avec Patrick et également avec notre recette du bonheur signée Jacques Weber aujourd'hui. À tout de suite sur Europe 1.
Bonjour, retrouvez-moi tous les matins sur Europe 1.
Non mais bon...
Bonjour, non mais... je suis ravi de vous retrouver tous les matins à 9h moins le quart sur Europe 1.
Non mais...
Bonjour,
oui.
Je vous retrouve sur Europe 1.
Mais enfin, qui êtes-vous, monsieur?
Hein? Mais c'est moi.
Non mais sérieusement, vous êtes qui?
Oh mais c'est moi.
Oui.
Bon, c'est moi.
C'est moi.
Il n'y a qu'un Nicolas Canteloup.
C'est moi.
Il revient en direct demain matin à 9h moins le quart sur Europe 1.
9h moins le quart.
Bien entendu. En faisant votre contrôle technique chez AutoSure, vous bénéficiez gratuitement pendant 2 ans de l'assistance super sûre en cas de crevaison, panne d'essence, accident, retrait de points. Alors faites votre contrôle technique chez AutoSure. Conditions générales et liste des centres participants disponibles sur autosure.com.
Salut, c'est Franck Chauset. Cette semaine, l'OM n'a pas gagné, mais les 550 magasins Intersport et tous les supporters de l'OM sont derrière eux pour le prochain match. Allez les Marseillais, on y croit.
Rejoignez-nous sur intersport.fr et faites vos pronostics pour la prochaine journée de championnat. Intersport, partenaire officiel de l'Olympique de Marseille.
Après, la cuisine. Tournez à droite. Passez devant la plante verte. Puis... traversez le salon. Allez au bout du couloir. Ça y est, vous êtes arrivé aux toilettes.
Vous n'aurez pas besoin d'aller bien loin pour faire un test de dépistage du cancer colorectal. Il suffit juste de faire un prélèvement de sel chez vous dès 50 ans. Parlez-en avec votre médecin.
Le plus souvent, dépisté à temps, un cancer colorectal n'est pas méchant. C'était un message de l'Institut National du Cancer.
Europe 1, Faustine Bollard. Jusqu'à 16h, et si c'était ça le bonheur?
Mon animal a pris le pouvoir chez moi. C'est la question qui nous intéresse aujourd'hui en ce lundi. Sandrine Otzmann est notre invitée. Elle est comportementaliste pour chiens et chats. Elle est créatrice du site www.chien-chat-mode-d'emploi.com. À quel moment faut-il prendre la décision qu'on redoute tant, c'est-à-dire de se séparer de l'animal?
Dans chaque famille, sont des situations très très difficiles et c'est à la famille de prendre cette décision. Le professionnel n'orientera pas dans une direction ou dans une autre. C'est à la famille de se rendre compte par elle-même que la situation n'est plus possible. Parce qu'il faut penser à l'après. Hein, donc il faut que cette famille puisse vraiment prendre la bonne décision. dans des risques vraiment de morsures importantes, graves, surtout quand il y a des jeunes enfants. Bien évident qu'on ne fait pas prendre de risques. Il faut, en règle générale, c'est pas ce qu'il y a de plus courant quand même. Hein, il faut être honnête. Hein. C'est pas les cas les plus souvent rencontrés. Mais c'est à la famille de prendre sa décision là.
De l'abandonner ou éventuellement de le faire piquer également, parce qu'on va avoir Patrick qui s'est retrouvé dans cette situation-là. Comment vous arrivez justement à accompagner une famille qui veut prendre peut-être cette décision ou qui est sur le point de le prendre ?
Ça m'est déjà arrivé, une personne qui s'était fait mordre au visage et qui de toute façon avait décidé qu'elle se séparerait de son chien. La question était de savoir, fallait-il effectivement l'emmener chez le vétérinaire pour une euthanasie ou est-ce qu'il fallait le replacer ? Donc c'est ce que nous avons vu ensemble et on a détaillé, on a passé énormément de temps, je suis restée 3 heures chez cette personne à détailler vraiment avec beaucoup de précision ce qui s'était passé avec cette morsure. Et il s'est avéré qu'effectivement, le chien, dans le contexte dans lequel il vivait, n'était pas adapté pour lui. Et finalement, il a été replacé. Donc, la propriétaire a pris cette décision à la fin de notre entretien. Et aujourd'hui, ce chien est dans une famille où il n'y a pas d'enfants. Et tout se passe extrêmement bien. Il ne présente pas de risque.
On va prendre Patrick, justement. Bonjour Patrick, bienvenue parmi nous.
Bonjour Faustine.
Bienvenue parmi nous. Vous nous appelez de Courbevoie, Patrick.
Tout à fait.
Alors vous avez dû prendre cette décision très douloureuse, hein ?
Ben oui, parce que on avait à l'époque on avait deux chats et il y avait un des deux chats le plus vieux qui avait 11 ans, il urinait partout. Mais il urinait principalement sur mes affaires. C'est-à-dire sur mon oreiller, sur mes pantoufles, etc. Et ça devenait au départ, c'était très espacé, c'était une fois de temps en temps. Et puis à la fin, c'était 2-3 fois par jour. Donc ça devenait irritant pour nous, irritant pour lui et irritant pour le petit chat aussi qu'on a gardé, qu'on a toujours.
Oui.
Parce que c'était lui d'ailleurs qui nous faisait voir, c'était assez drôle, c'était lui qui nous montrait où l'autre avait uriné.
Il balançait quoi.
Il balançait, voilà, il cafetait, donc c'était assez rigolo. On est allé voir notre vétérinaire habituel, qui nous avait donné des cachets, je ne connais plus le nom,
oui.
Mais pour un peu calmer, parce qu'il disait il est peut-être angoissé, ce qui était possible, puisqu'on a une amplitude horaire dans la journée qui est assez énorme,
oui.
Donc il était peut-être angoissé de rester toute la journée enfermé, etc. On lui a donné ses cachets, ça a fait effet un petit peu, et puis c'est revenu à nouveau.
Toujours contre vos affaires, hein ?
Toujours contre mes affaires.
Jamais sur les affaires de votre compagne ou de vos enfants, enfin.
Jamais sur les siennes. Et que je mette mes pantoufles, que je les mette à la salle de bain ou que je les mette à côté de la télévision, c'était toujours sur mes affaires.
Alors,
c'est peut-être
oui.
Dû à une odeur ou je ne sais quoi, mais c'était j'avais l'impression que c'était moi qui
visé, quoi.
Parce que, en même temps, le chef de meute, c'est moi.
D'accord.
Pour rejoindre le thème de votre émission, les animaux chez nous n'ont jamais pris
le pouvoir.
Le pouvoir.
Alors, juste avant de nous dire comment cette histoire s'est terminée, comment on peut interpréter le fait qu'un chat, en effet, fasse ses besoins en permanence sur les affaires d'une seule personne ? C'est une question d'odeur.
C'est pas un hasard.
C'est pas un hasard, on est d'accord.
Oui. C'est un problème de relationnel avec le propriétaire, en tout cas avec cette personne-là. Donc, qu'est-ce qui s'est passé que la première fois que le propriétaire a découvert effectivement le pipi dans ses pantoufles ? On peut bien imaginer que peut-être le chat a été sanctionné. Peut-être verbalement, mais aussi physiquement, ce que le chat ne comprend pas, hein, de toute façon. Il ne fait pas du tout ça, le chat ne faisait pas ça pour l'embêter, hein, comme il a pu le penser. Puis d'autre part, ce que je voudrais relever également, c'est que il n'y a pas de meute chez le chat, il n'y a pas cette fonction de hiérarchie, de dominance.
C'est pas la même chose.
Et non, absolument pas. Donc si on est dans du rapport de force, comme je disais tout à l'heure, le chat est extrêmement sensible. Sanctionner un chat physiquement peut avoir des conséquences derrière, et pour aller exprimer ce mal-être, eh bien, il va uriner.
C'est ce que vous avez fait, Patrick ? Vous avez eu un jour un geste un peu violent qu'on peut comprendre ?
Violent, non, parce que c'est pas mon habitude, ni envers les humains, ni envers les animaux. Mm-hmm. Mais je lui ai fait comprendre, et je lui ai fait ce que je ce que je pense encore aujourd'hui, alors peut-être que je me trompe et peut-être que votre invité pourra m'éclairer là-dessus, je lui ai mis le nez dedans. Alors, est-ce que c'est la bonne solution ou pas? Est-ce que c'est avec sa propre chat? Peut-être pas, peut-être. Mais ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'avec le deuxième chat, j'ai le même comportement avec le deuxième chat. Quand il fait une bêtise, on le réprimande. Et lui, il est adorable, il est mignon comme tout, à tel point qu'on a été obligé de le faire hospitaliser en clinique vétérinaire il y a une semaine et demie. On avait la crainte qu'il ne revienne pas.
Oui, non, on voit, on ne sous-entend pas du tout que vous n'êtes pas attaché à vos animaux, Patrick. Juste parce qu'on arrive à la fin de cette émission, un petit mot sur le fait de mettre le nez dedans.
Ça ne sert strictement à rien. Le chat et le chien communiquent. Hein, leur façon de communiquer, c'est justement d'aller sentir les odeurs des autres. Hein, donc, comment voulez-vous que quand on met le nez dedans dans sa propre urine et qu'on le sanctionne à ce moment-là? Que va comprendre le chat? Mais rien, il ne comprend pas pourquoi il est sanctionné. Alors, où on peut effectivement agir quand on prend l'animal sur le fait en train de faire, là, on peut dire un non un petit peu sec, mais c'est tout, on ne peut pas aller plus loin. Et quand c'est déjà fait, l'animal, lui, n'a pas cette mémoire de savoir qu'il y a quelques minutes, il a uriné là. D'autre part, quand le chat faisait ça, c'est vraiment parce qu'il n'était pas bien. Mmh. Hein, donc, il ne faisait aucunement pour embêter le propriétaire.
Merci Patrick, merci beaucoup Sandrine de nous avoir accompagnés pendant une heure. Je vous garde encore quelques instants, le temps pour nous d'écouter la suite.
Europe 1, la recette du bonheur.
Oui, il y a Thomas, mon réalisateur, qui me dispute pour pas que j'annonce la recette du bonheur et qu'il jingle.
Ah,
voilà,
parce
pourquoi
que c'est
on
déjà
sourit.
Dit dedans.
Parce
oui.
que c'est déjà dit. Ah, je me tape sur la main. La recette du bonheur de Jacques Weber aujourd'hui. Tout de suite, on l'écoute.
Le bonheur, je crois, c'est d'abord de s'accepter, d'accepter le temps que l'on traverse. Accepter totalement d'être, c'est tout. Et c'est ce qu'il y a de plus difficile, c'est une position philosophique compliquée. On sait bien qu'être philosophe dans ce monde, c'est extrêmement difficile, oui. Le bonheur, ça peut être aussi tout simplement la promesse du bonheur. C'est-à-dire l'éveil du désir, hein, l'éveil du printemps, le croisement d'un regard, d'une silhouette, d'une jeune femme. C'est un moment très fugace de désir qui, de toute façon, est fait pour naître et mourir. Et de l'accepter en tant que tel, c'est une trace de bonheur aussi. Moi, je crois que tout ce qui est naissance, c'est ce qu'il y a de plus beau. Naturellement, je parlerai bêtement de la naissance de mes enfants. La naissance de l'amour de ma femme, avec qui je partage ma vie depuis 30 ans. L'entrée en scène, c'est un franchissement qui comporte et l'horreur, pas le malheur, l'horreur, et le bonheur juste après, c'est d'y être, c'est d'être en scène. Ça, c'est un moment que je viens reconjuguer tous les soirs. Et c'est sans doute pour ça que j'y vais, parce que j'aime bien le bonheur. La baisse de morale, la meilleure façon, c'est... Vous savez, quand on a une difficulté au théâtre, moi, il faut jamais essayer de l'éviter ou de la contourner, il faut la prendre de face. Une baisse de morale, il faut l'identifier, il faut la regarder. La baisse de morale, c'est vous, donc vous mettez le miroir, puis vous travaillez avec, quoi. On ne devient que ce que l'on est, et en même temps, nous sommes nos propres potiers, alchimistes, pétrisseurs de nous-mêmes en permanence. On peut tout faire sur nous. Si j'avais un conseil à donner, ça serait tout simplement de prendre le temps. Au moment même où on parle d'optimisation du temps, faut courir, le temps de marcher, de regarder, d'écouter, de savoir que où que l'on soit, à quel moment que l'on se trouve, que l'on traverse, qu'il y a quelque chose qui est là, et qui est beau, qui est fort, et qui est quoi au fond? La vie, c'est tout.
Merci Jacques Weber pour ces beaux conseils. Jacques Weber que l'on retrouvera sur la scène du théâtre Marigny à partir du 22 septembre où il reprend son spectacle Seul en scène. Merci beaucoup Jacques Weber. Merci également à tous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer ce programme. Comme tous les jours, demain nous parlerons de ceux d'entre vous qui n'ont pas supporté de devenir riches du jour au lendemain. Oui, c'est possible. Moi je me pose pas ce problème. Mais franchement pour les autres, on a hâte de vous entendre. Je vous propose donc de venir répondre à la question suivante sur notre répondeur. Si vous en aviez les moyens, arrêteriez-vous de travailler? Si vous en aviez les moyens, arrêteriez-vous de travailler? Vous nous répondez au 39-21. Je vous souhaite une très belle après-midi à l'écoute d'Europe 1. Je vous embrasse très fort, Julia.
Mais moi aussi, Faustine.
Et à demain.
À demain.
On sera riche demain.
On sera riche, évidemment, de vos conseils, j'ai envie de dire. Dans un instant, Laurent Ruquier en direct avec toute son équipe.
À demain.
Oh les enfants, doucement s'il vous plaît. Bon allez, on va faire un jeu. Quel est le plus gros poisson du monde que vous connaissez?
La baleine?
Eh ben non, c'est le dauphin, parce que la baleine c'est un mammifère marin, pas un poisson.
Chérie, je crois que le dauphin aussi. Faudra qu'on aille voir dans le Petit Larousse. Le Petit Larousse, c'est ce qu'il reste quand on a tout oublié.
Leclerc, vous savez que vous achetez moins cher.
Bon, j'y vais, je suis à la bourre.
Attends, regarde-moi, fais voir tes dents.
Magnifique, hein. Ça, c'est mon dentifrice Signal White Now. Avec en ce moment 50% de baisse immédiate en caisse chez Leclerc. Efficace, non?
Et pourquoi j'en ai pas, moi?
Parce que c'est le mien.
Depuis toujours, Leclerc se bat pour faire baisser les prix. Du 26 août au 5 septembre, les deux tubes de 75 ml de dentifrice Signal White Now, avec 50% de réduction immédiate en caisse, sont à 2,06€, soit 13,73€ le litre, voire modalité dans les magasins participants.
Bon, arrête, faut que j'y aille, moi.
Heureusement encore.
Le dernier.
Bonjour, je suis votre voisin. Ce câble d'ordinateur est à vous, non?
Oui.
C'est la troisième fois qu'il s'introduit chez nous.
Je vois pas où il est.
Il serait temps de lui offrir une Darty Box. C'est inhumain ce que vous faites.
Nouvelle Darty Box, très haut débit, jusqu'à 100 mégas. Votre multimédia.